Identité personnelle. Le problème de l'identité personnelle n'est pas formé d'une seule question, mais d'un ensemble de questions ou de deux questions principales qui sont intimement liées entre elles. La première question qu'on se pose, c'est de savoir quelles sont les personnes que nous sommes. On se demande en première personne, qui suis-je? Qu'est-ce qui fait que je suis la personne que je suis? Et c'est une question, comme on peut s'en apercevoir, qui a une composante immédiatement psychologique ou sociale, ou biographique, ou narrative, quel sens je peux donner au fait que je suis devenu ou que je suis la personne que je suis à présent? Comment un ensemble de propriétés singulières ou moins singulières se sont attachées à moi? Quel est ce moi? Est-ce que je n'aurais pas pu avoir d'autres propriétés? Ces propriétés sont miennes de manière contingente. J'aurais pu avoir une autre identité ou j'aurais pu ne pas avoir d'identité du tout. Donc ça, c'est une première question. Mais dans la tradition métaphysique classique, on pose en réalité une autre question qui est rattachée à la première question, mais qui est quand même différente. Ce qu'on se pose comme question, c'est de savoir ce qui fait qu'on peut réidentifier une même personne à travers le temps. Qu'est-ce qui fait que la même personne, quelque chose qu'on appelle la même personne, existe à différents moments du temps? Et en fait, c'est selon cette deuxième question que les grands philosophes classiques, les grands théoriciens classiques de l'identité personnelle, comme David Hume ou John Locke, se sont posé la question. Et ils se sont posé la question de la persistance d'une certaine identité qu'on appelle typiquement une personne, d'où le problème de l'identité personnelle. Et ce que montrent ces philosophes, comme on va le voir, c'est que les propriétés qui font ma singularité, ma subjectivité, ne sont pas forcément les propriétés à travers lesquelles je vais pouvoir me réidentifier à travers le temps. Donc il y a comme une dichotomie entre une question portant sur ma singularité psychologique, ce que j'ai tendance aussi à appeler mon identité personnelle, et ma réidentification à travers le temps, le fait que je reste le même à travers le temps. Alors, ces philosophes, Hume, Locke et d'autres philosophes plus contemporains, comme par exemple Derek Parfit, philosophe anglo-américain, ont essayé d'aborder de front ces deux questions, la question de l'identité psychologique et la question de la réidentification d'une même personne à travers le temps. Et ils ont essayé de trouver des critères qui correspondaient, qui répondaient à ces deux problèmes à la fois. Et un de ces critères très connus dans l'histoire de la philosophie, qui a été proposé initialement par John Locke, est celui de la mémoire. En réalité, je suis la personne dont je peux me remémorer les actes passés, et dont les actes présents ou les actes futurs seront remémorés par moi également. Donc je suis une personne dans la mesure où des contenus mentaux se transmettent en moi par la mémoire. Et donc on a beaucoup réfléchi sur ce critère psychologique, cette approche psychologique de l'identité personnelle. C'est une des voies d'approche, une des voies d'entrée dans le problème de l'identité personnelle, c'est de trouver les canaux psychologiques, les canaux internes, les canaux introspectifs, comme l'est la mémoire, qui permettent de dire que nous héritons à travers le temps d'un certain nombre de traits qui me constituent comme cette personne. Donc on voit bien comment ici le problème de l'identité personnelle au sens de la réidentification d'une personne et le problème de la saisie d'un certain nombre de qualités singulières se trouvent combinés dans un même critère qui est celui de la mémoire. Mais c'est une certaine approche, c'est une approche psychologique. Et d'autres philosophes ont proposé une autre solution, disant que ça ne suffisait pas comme critère, ce n'était pas un critère suffisant, peut-être nécessaire, mais pas suffisant. Ils ont proposé une autre approche qui est purement physique, purement somatique. En fait, je serai la personne qui possède un certain corps et dont le corps se maintient, se persiste à travers le temps. Je suis cette entité passée ou future qui a le même corps, qui a le même organisme biologique qu'au moment présent. Et donc que nous perdions notre identité ou que nous persistions dans la même entité n'a rien à voir, selon ces philosophes qui privilégient cette approche somatique, avec des faits psychologiques. En réalité, ce dont on peut s'apercevoir, que cette approche psychologique par la mémoire, par exemple, ou cette approche somatique par la persistance d'un corps à travers le temps, modélisent ou rendent compte d'intuitions très liées entre elles et qui constituent tout ensemble, toutes les deux ensemble, le problème classique de l'identité personnelle. Je vais vous donner un exemple pour rendre compte de quelle manière ces deux intuitions sont combinées. Imaginez le cas où mes contenus mentaux, toute ma vie mentale, tout ce que je sais, tout ce dont je me souviens, toutes mes affections, mes émotions sont transposées dans un autre cerveau qui n'est pas le mien. Imaginez ce cas donc, de transposition des contenus mentaux de mon cerveau à un autre cerveau. Est-ce qu'il est clair intuitivement que je suis devenu la personne qui possède ce second cerveau? Il semble que l'intuition dise que, en un certain sens, si ce sont seulement mes contenus mentaux qui ont été transposés dans un autre cerveau, je ne suis pas réellement devenu la personne qui possède ce second cerveau. L'intuition, dans ce cas, est qu'une autre personne, propriétaire du second cerveau, a usurpé ou a acquis mon identité personnelle. Alors, c'est un premier exemple. Et un deuxième exemple qui contrebalance celui-ci, qui est le suivant, est que imaginez maintenant que mon cerveau soit transposé dans un autre corps, dans le corps d'une autre personne, mais que lors de la transplantation, une grande quantité des contenus mentaux soit perdue ou soit radicalement modifiée, que la psychologie inhérente à ce cerveau, la vie mentale que possède ce cerveau, soit modifiée à travers le transfert. Est-ce que je suis devenu la personne qui possède maintenant mon cerveau? C'est pas clair non plus. On hésite à dire que je sois devenu cette autre personne si, à travers la transposition, une grande partie de ma vie mentale a été modifiée. Ce qu'on semble avoir perdu dans ce second transfert de cerveau, c'est l'identité au sens de la subjectivité. Je ne suis plus tout à fait le même. Je étais escamoté. La première personne a été escamotée au cours de ce transfert imparfait. Alors, ce que montrent ces deux exemples, l'exemple d'une transmission de mes contenus mentaux à un autre cerveau et l'exemple de transposition de mon cerveau dans un autre corps avec perte des contenus mentaux, c'est qu'en fait, pour la préservation de l'identité personnelle, intuitivement, repose à la fois sur des critères psychologiques, préservation des contenus mentaux, et sur des critères somatiques ou physiques, préservation du support matériel de ces contenus mentaux. Donc ça, c'est un exemple, une expérience de pensée, comme on l'appelle en philosophie. Et il y a de nombreuses expériences de pensée du même type concernant l'identité personnelle qui montrent qu'on a peut-être besoin des deux approches. En réalité, il y a beaucoup d'approches possibles sur le problème de l'identité personnelle. Et il y a même des approches qu'on pourrait appeler paradoxales, dans la mesure où on va essayer de répondre à la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'une personne garde son identité ou qu'est-ce que c'est que l'identité personnelle, en prenant un point de vue complètement, paradoxalement, impersonnel. Par exemple, on pourrait penser que l'identité personnelle, c'est simplement le fait que je garde certains goûts, je garde certaines préférences, je suis le support d'un certain type de responsabilité de mes actes, je maintiens des liens affectifs vis-à-vis d'un certain entourage, et qu'en fait, finalement, les courbes d'utilité, ce qu'on peut appeler en économie les courbes d'utilité de mes préférences, de mes liens affectifs, de mes choix dans la vie, comme un choix d'une certaine éducation, toutes sortes de préférences, finalement, que toutes ces courbes d'utilité attachées à certains biens, comme l'éducation, les liens affectifs, etc., convergent vers un point focal, et que ce point focal, on va le nommer la personne, et que, étant donné la stabilité de ces cours, de ces courbes d'utilité, la personne va se maintenir avec ses mêmes préférences à travers le temps et que l'identité personnelle, finalement, n'est rien d'autre que le support assez abstrait, finalement, de ses préférences, de ses biens de consommation, etc. Alors là, c'est très intéressant. C'est une vue également qui est employée par des philosophes comme celui que j'ai cité, Derek Perfit, le philosophe américain, anglo-américain, qui envisage sur l'identité personnelle un point de vue paradoxalement impersonnel. Et c'est peut-être dans ce genre d'approche que se trouve la solution aux problèmes qui ont été posés classiquement par David Hume et par John Locke et qui nous ont légué en fait cette énigme de l'identité personnelle.